VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. La Corée du Nord a détruit aujourd'hui le bureau de liaison avec le Sud à Kaesong, une ville située près de la frontière, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Unification à Séoul, plusieurs jours après des propos virulents de la part de Pyongyang. Cette destruction survient après des menaces proférées ce week-end par Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un. Depuis le début du mois, Pyongyang a multiplié les attaques au vitriol contre son voisin, notamment contre les transfuges nord-coréens qui, depuis le sud, envoient au nord des tracts de propagande par-delà la zone démilitarisée. Au moins 3 soldats indiens ont péri dans une confrontation violente avec l'armée chinoise sur la frontière disputée au Ladakh, dans le nord, source de vives tensions militaires depuis le mois de mai entre les deux géants asiatiques, a annoncé aujourd'hui l'armée indienne. La Chine a accusé l'Inde d'être responsable de l'incident en ayant franchi à 2 reprises la frontière contestée, mais n'a pas publiquement fait état de mort de son côté. Des troupes des 2 puissances nucléaires sont engagées depuis le début mai dans plusieurs face-à-face tendues le long de leurs frontières communes, principalement au Ladakh, et ont acheminé des milliers de troupes en renfort des deux côtés. Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus a dépassé les 8 millions hier lundi, selon un décompte effectué par l'agence Reuters. Environ 25% de ces cas, soit 2 millions de contaminations, ont été rapportés aux États-Unis, mais le nombre de cas progresse rapidement en Amérique latine, qui représente désormais 21% du nombre de total de cas au niveau mondial. Le nombre de contaminations et de décès liés au coronavirus ont notamment bondi au Brésil en faisant de cette nation le pays le plus touché après les États-Unis. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé hier soir un allègement du couvre-feu dans la capitale Conakry et la prochaine réouverture des lieux de culte et de certaines écoles fermées pour contrer le COVID-19. Le président guinéen a invoqué dans une allocution télévisée des statistiques encourageantes en ce qui concerne le taux de guérison des malades et la létalité de la maladie. Il a cependant souligné les risques d'un relâchement et indiqué que sous réserve d'approbation par le Parlement, l'état d'urgence décrété le 26 mars et permettant des mesures exceptionnelles serait prolongé de 30 jours à partir d'hier lundi. Le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, va prêter serment jeudi. Cette entrée en fonction a été avancée de 2 mois après le décès du président sortant, Pierre Nkurunziza. Les détails avec Nani Talani.
Le ministère des Affaires étrangères a invité les représentations diplomatiques au Burundi à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu qui auront lieu jeudi 18 juin 2020 à 11h à Gitega. Élu à la présidentielle du 20 mai, Evariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, officiellement d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Jeudi, le gouvernement avait saisi la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du pouvoir et déterminer la marche à suivre. Vendredi, la Cour avait estimé que le nouveau président, issu des rangs du parti au pouvoir, devait débuter son mandat de 7 ans le plus rapidement possible. Cette décision annule la période d'intérim qui devait être assurée par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabinda, comme le prévoit la Constitution en cas de vacance de poste définitif de la présidence. Le général Ndayishimiye, désigné par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a été élu pour un mandat de 7 ans renouvelable 1 fois. L'opposition a dénoncé des fraudes massives, mais son recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle.
Le journaliste égyptien Mohamed Mouni, un éditorialiste indépendant qui a travaillé pour la chaîne Al Jazeera, a été arrêté lundi, a déploré le Comité pour la protection des journalistes. Après son arrestation par des policiers en civil à Gizeh près du Caire, le parquet de la sécurité nationale lui a notifié des poursuites pour appartenance à un groupe terroriste, diffusion de fausses nouvelles, utilisation incorrecte des réseaux sociaux selon un communiqué du CPJ publié lundi. Et puis l'ONG Human Rights Watch a réclamé aujourd'hui une enquête urgente sur de possibles crimes de guerre commis par les forces du maréchal Khalifa Haftar en Libye, en relevant notamment les récentes preuves apparentes de torture et d'exécution sommaire. Jean-Roger Billon, le prochain point de l'actualité sur VOA Afrique, c'est dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Dites-le à un ami.
I know say the time will come, I know say the time.